tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Alors, il y a un autre aspect là qui, justement, c'est l'aspect caché, pas caché. Ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on veut bien montrer ou ce qu'on veut bien montrer à certaines personnes, qu'on ne veut pas montrer à d'autres. Etc.
Il y a des personnes qui veulent, ils les veulent que pour elles. De la chemise, de travail, des manches courtes, du short, des chaussettes. Il y a des professions où c'est caché dessous, par exemple. Après, il y a des personnes qui veulent les faire voir, qui ont besoin de les montrer.
Les footballeurs, les...
Ça, une fois de plus, c'est propre à chacun. C'est très difficile de vous expliquer pourquoi on ne veut pas les montrer et pourquoi on veut les montrer. C'est vraiment propre à chaque individu.
Alors justement, c'est intéressant ça aussi parce qu'il y a eu une évolution dans les différentes sociétés de la manière dont a été perçu le tatouage.
Oui.
Très longtemps, le tatouage a été quelque chose de un petit peu secret, un petit peu sulfureux, qui était réservé à certaines catégories, soit professionnelles, soit marginales. Oui. Les soldats, les marins, les détenus.
Les prisonniers.
Et ça, pas seulement dans notre culture. Hein.
Non.
Dans la culture japonaise, c'est exactement pareil. Hein. À l'origine du tatouage japonais, c'était une marque qui était infligée aux condamnés. Et puis ensuite, ça a été l'apanage de professions qui étaient des professions qui étaient jugées dégradantes, hein, comme boucher ou ramasseur d'ordures, etc. Mm. Et puis petit de là, on est passé aussi à des professions qui étaient identifiées par leur tatouage, comme les pompiers en particulier, qui faisaient tatouer des motifs qui étaient censés les protéger des dangers du métier de pompier.
Ça, c'est les motifs de protection. On les retrouve aussi dans des tribus sur la planète entière.
Voilà. Et puis alors, l'histoire de l'acceptation du tatouage aussi, c'est très intéressant à explorer. Dans notre société, comme je rappelais ces pourcentages étonnants tout à l'heure, pour revenir au Japon, qui est quand même un des hauts lieux du tatouage, le tatouage a été un petit peu admis. Il a été assez florissant au XVIIIe siècle, jusqu'à une partie du XIXe siècle, tout en étant assez mal vu. Et puis d'un seul coup, quand le Meiji est arrivé, c'est-à-dire la période de la modernisation, il a été complètement interdit.
Tout à fait.
Et puis il est ressorti encore à nouveau après 1948, enfin 1945, après la fin de la guerre, tout en étant encore mal vu parce que c'était l'apanage surtout des Yakuza.
Tout à fait.
Et puis petit à petit, il a à nouveau repris droit de cité et été accepté, mais accepté avec des réserves. Hein. Moi, j'ai... il y a quelques semaines, j'avais des amis japonais à la maison. Je leur ai montré le livre de Philippe Ponce, qui vient de sortir sur les tatouages au Japon. Je leur ai dit, mais c'est magnifique, vous vous rendez compte comme c'est beau. C'était plutôt réservé. Ils ont dit, oui, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas du tout manifestement leur tasse de thé.
C'est une fois de plus, c'est propre à chacun. Il y en a qui acceptent, qui n'acceptent pas. Il y en a qui trouvent ça beau, d'autres qui trouvent ça très moche. Je pense que dans toutes les cultures, dans tous les pays.
Alors, si on considère que c'est jamais fini,
oui.
Et effectivement, ça peut durer des années, et coûter très cher, hein, puisqu'un full body, ça peut coûter jusqu'à 30 000 euros hein, au Japon, et durer plus de 10 ans. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a des abandons?
Moi, j'ai pas eu le cas pour l'instant. J'ai jamais fait de full body. Hein. Je fais des bras entiers.
Non, mais sur des motifs.
Des dos entiers, des motifs. Non, ce qui fait mettre en pause la continuité du motif, souvent c'est l'argent. C'est le problème d'argent. On économise.
Oui, mais ça peut être. Oui, c'est temporaire.
Voilà, ça reste temporaire. Après, suivant la vie, qui n'est pas toujours facile. Il peut s'écouler 2 ans, 3 ans, et après la personne continue.
Ça, c'est un des avantages du tatouage, ça. C'est comme la broderie au petit point, où ça peut se reprendre des années après.
Tout à fait.
Elisa.
Oui.
Quels sont tes projets ?
En tête ?
Oui.
Bah déjà, j'aimerais bien finir mon bras droit, qui est un peu mon cahier de brouillon. Que j'ai toujours eu un cahier de brouillon depuis que je suis jeune. Et
attends, un cahier de brouillon, ouais. Tu parles d'un cahier de brouillon, ouais, alors que en fait, tu parles de quelque chose qui est censé être indélébile. Et...
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, j'avais toujours un cahier de brouillon avec moi et j'écrivais tout le temps dessus où je dessinais. Et j'ai vraiment envie que mon bras droit, ce soit ça, en fait. Ce soit un petit peu un mix de toute ma vie. Et pour mon bras gauche, j'ai un projet en particulier que j'ai depuis, ça fait peut-être 3-4 ans, mais pareil, j'attends que ce soit le bon moment. Pour moi, ça ne l'est pas, là. J'attends que ce soit le bon moment.
Oui, Elisa aborde encore un autre sujet.
Oui.
Le bon moment. Mm. On a dans la vie des moments où c'est maintenant. On marque un instant, triste, heureux ou pas. On sait, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est maintenant.
Ça se ressent, en fait.
C'est comme un besoin, le tatouage. On en a besoin, on y réfléchit, mais c'est pas le bon moment. Et la vie fait que, tout d'un coup, ça arrive, ça y est, c'est là. Et c'est difficile à expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a ces moments. Et c'est pour ça qu'on a des tatouages qui racontent des histoires, mais aussi on les fait à des moments particuliers dans notre vie. Moi, j'ai beaucoup de tatouages qui correspondent à des instants précis de ma vie que j'ai fait justement... Sur l'instant, je me suis dit, j'ai pas pensé du tout que c'était le bon moment, mais ouais. Après, j'ai dit, en fait, c'était maintenant. C'était ce moment-là.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, en tant que modeste tatouage, bon, je suis pas censé parler de mon expérience personnelle, mais effectivement, ça correspond à des moments.
Oui, tout à fait. Et ça peut aider aussi à avancer. Tout comme le tatouage commémoratif. Moi, j'ai d'autres motifs. Mais je me suis aperçue, en fait, j'en avais besoin à ce moment-là, c'était maintenant, c'était pas un autre moment, et que finalement, ça m'a donné une force, quelque part, pour continuer, et continuer à avancer. Aussi pas oublier, ça c'est sûr, des choses qu'on ne veut pas oublier, même si c'est pas des choses très gaies, on veut pas les oublier, mais ça aide à avancer. D'où l'importance du bon moment.
C'est ça.
Et on en revient à la réflexion, on prend le temps, qu'on mûrit notre projet, on a envie d'avancer. Comme Elisa parlait de son bras brouillon, j'ai un bras brouillon.
Super.
Plein de petits motifs. L'autre, comment ça va être? Après, un bras entier.
Moi aussi.
Il est déjà prêt, il est déjà commencé. Voilà, mais c'est mon bras brouillon. C'est des petits motifs importants que j'ai voulu placer là. Voilà. Donc,
ouais. Ouais, c'est marrant.
Alors, on a parlé d'addiction, cette addiction aujourd'hui, et puis la notion de permanence et de durée, elle est mise en question par l'évolution des techniques d'effaçage, puisque qui a beaucoup arrêté souvent les gens qui auraient voulu se faire tatouer, ou que ceux qui s'étaient fait tatouer, qui auraient voulu se débarrasser de leur tatouage, c'est à la fois la difficulté et le coût de cette opération. Or, ces notions de difficulté, ces notions de coût, elles sont en train de disparaître devant ce que Céline va nous expliquer.
Le laser.
Oui.
C'est très, très douloureux. J'y suis pas passée personnellement, parce que quand je réfléchis à mes tatouages, je sais que c'est pour la vie, et je n'ai pas du tout en tête de me dire un jour, j'irai les faire enlever au laser. Non, pour moi, c'est pas concevable. C'est dans la démarche. Si on entretient cette démarche d'aller se faire tatouer, je n'ai pas en tête un jour, en 20 ans, 30 ans, de recourir à la technique du laser. Essayer de les faire enlever, qui au final, après quelques séances, avaient trop mal et n'étaient pas satisfaits du résultat, on préférait venir et là procéder
à...
On fait un cover.
D'accord.
On refait un tatouage qui lui plaît vraiment, bien réalisé cette fois-ci, et là, la personne repart avec le sourire.
Bon, maintenant, avec le recul que vous avez, est-ce que vous avez noté une évolution des motifs ? Je vous entendais tout à l'heure parler, avant qu'on commence, là, des tatouages polynésiens. Comment ça évolue ? Comment les goûts évoluent-ils depuis, disons, une dizaine d'années ? Parce que ce tatouage polynésien, on l'a vu se multiplier quand même.
Bien sûr.
C'est devenu très, très commun, en particulier chez les sportifs ou...
Tout à fait. Ça, c'est, comme on disait avant l'émission avec Martine, c'est quelque chose, c'est un choix de se diriger vers ce style de motif. Parce que ces motifs ont une particularité, c'est qu'ils racontent votre histoire, l'histoire dont vous avez envie. Et je pense que c'est, Martine, si vous en avez déjà, c'est peut-être plus à vous de nous dire pourquoi cette démarche.
J'en ai pas, vous en avez encore. Je trouve que le graphisme est très joli,
oui.
Très fin, par rapport aux tatouages japonais qui sont de très beaux tableaux. Moi, ça m'attire pas du tout.
Parce que c'est trop figuratif.
Oui, beaucoup trop. Et c'est vrai que tous les tatouages que j'ai vus, tous les tatouages maoris, je trouve que c'est joli. C'est fin, c'est pas gros, c'est léger en même temps. Et j'aime beaucoup.
Niveau.
Ça fait mal, hein.
Oui, tout c'est, à fait.
Parce
oui,
que les, le maori, les tatoueurs traditionnels, marquisiens ou tahitiens. Avec leurs petits râteaux et leurs petits marteaux.
Tout à fait. Oui, c'est un art.
On la sent passer, hein, quand même.
C'est un art douloureux.
Si on le fait dans la plus pure des traditions, oui, c'est comme ça. Alors, il y a des tatoueurs qui font du polynésien ou du marquisien avec.
À la machine bien sûr.
Oui, tout à fait. Sûr. Mais ornementalement parlant, c'est magnifique. Au niveau du corps, voilà, c'est. Et là, une fois de plus, c'est une histoire, mais il n'y a que vous qui la connaissez. C'est
ça reste très personnel.
Tous les tatoueurs qui utilisent ces motifs sont capables de justement de dessiner une histoire.
Par exemple, moi, non. Oui. Je ne suis pas polynésienne, je ne suis pas originaire des îles. Pour moi, c'est un motif traditionnel. C'est quelque chose qui est propre à eux. C'est leur histoire. Et moi, étant française. Je sais lire quelques motifs, mais je ne les connais pas tous. Et je préfère laisser ces gens-là, qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils racontent sur la peau d'une personne, je leur laisse faire. C'est à eux de le faire. Moi, c'est pas mon travail. Je ne sais pas raconter les histoires aussi bien que eux. C'est quand on m'apporte un motif qu'on a vu sur Internet, je veux ça, je préfère refuser. Parce que c'est propre à la personne qui le porte, c'est unique. Et se retrouver avec l'histoire de quelqu'un d'autre sur la peau, je vois pas l'intérêt. Donc je préfère refuser et les diriger vers des personnes qui sont spécialisées. Donc des personnes qui viennent directement de Polynésie, qu'on peut retrouver en France, qu'on peut retrouver aussi ailleurs, ou sinon, au cours d'un voyage, partir et rencontrer cette personne. Parce que là, il faut prendre le temps de rencontrer la personne, de raconter l'histoire. La personne va vous dessiner votre histoire. Donc directement à main levée ou soit faire d'abord un dessin et après en fonction vous le tatouez. Mais c'est, une fois de plus on revient au lien avec le tatoueur, on revient à l'histoire que vous voulez créer et le traditionnel polynésien, maori ou marquisien, c'est typique, c'est propre à eux, c'est leur histoire, c'est dans leur tradition.
Est-ce qu'il y a un style ou est-ce qu'il y a des écoles de style? Disons, dans le monde occidental, on va dire.
Pas à ma connaissance.
Grande-Bretagne, qui est quand même un pays où les gens sont beaucoup tatoués. États-Unis, bien sûr.
Bien sûr. Les États-Unis, vous allez retrouver le old school et le new school.
Ah, alors.
Ou le tatouage traditionnel américain, qu'on peut retrouver sur les premiers marins.
Oui.
Ou ces métiers dont on parlait tout à l'heure, un petit peu... Parlons des marins, des dockers, tout ça, la marine.
Les bateaux à voile.
Oui, tout ça.
Tout ce qu'on trouve dans le scrimshaw aussi.
Oui, les militaires. Oui. Voilà. Toutes ces professions-là, oui. Ouais. Typiquement, ça, c'est du typique traditionnel américain. Et le old school, le new school, c'est pareil. C'est deux styles aussi qu'on peut retrouver qui viennent un petit peu de là-bas.
Et en Europe?
Alors là, c'est une bonne question. Avons-nous quelque chose d'unique? Je ne sais pas.
Il n'y a pas un style italien, il n'y a pas un style britannique, il n'y a pas un style allemand.
Non, il y a des styles qui évoluent, qui viennent, qui apparaissent. Parce que chaque tatoueur, on essaye de trouver notre signature, notre style, notre patte. Et on préfère faire ce qu'on aime. Il y a des choses qu'on n'aime pas spécialement faire, mais on essaye de s'affirmer comme ça. Mais je pense que c'est nos inspirations. On est toujours inspiré d'un peintre, je sais pas, de la nature, de, ça dépend d'où viennent, ou de la musique. La musique nous aide beaucoup aussi. Enfin, moi, dans mon cas, oui. Je peux pas vous dire vraiment en Europe, non.
Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, puisqu'on approche de la fin de l'émission. Je crois pas qu'Elisa ait dit ça, puisque manifestement elle a fait ses premiers tatouages en toute indépendance, mais Martine et vous-même, Céline, vous avez insisté sur le fait que quand vous avez commencé, étant jeune, vous avez senti une certaine résistance de la part de vos parents.
Bien sûr.
Le fait que le tatouage féminin se soit banalisé comme ça depuis une vingtaine d'années, est-ce que c'est quelque chose à mettre en parallèle avec le mouvement irrésistible d'émancipation des femmes ?
Il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Moi, je pense par rapport à des clientes que je rencontre.
Qui va très loin, quoi. Oui, mon corps m'appartient, etc.
Tout à fait. En tant que jeune fille, moi, mon papa, par exemple, n'accepte toujours pas que je me fasse tatouer à l'âge que j'ai. Pour lui, j'abîme mon corps, qui en fait, pour lui, est le corps de sa fille, de sa petite fille, de son bébé. Et il ne comprend pas forcément ce que je fais sur mon corps. Mais c'est mon corps, il m'appartient. J'ai des femmes, arrivées à 50, 60 ans, retraite, qui font des fuck à leur mari, qui font des fuck à leur travail, qui disent « Depuis que j'ai 20 ans, je veux un tatouage, maintenant je le fais. D'accord. C'est mon corps, ça m'appartient. J'y D'accord. vais, je le fais. » Oui, il y a cette forme d'émancipation et de dire « Maintenant, je veux vivre. » C'est quand même particulier à l'heure où on est aujourd'hui, à l'époque où on est, qu'on ne puisse pas être en pleine possession de notre corps et qu'on ne puisse pas en faire de ce que l'on veut. Écrire dessus, dessiner dessus, se percer aussi. Enfin,
oui, ça c'est un autre aspect. Rester, on fera une émission spéciale sur le piercing.
On va rester dans le tatouage. C'est quand même terrible à l'heure d'aujourd'hui qu'on s'inquiète encore du regard des gens, qu'on s'inquiète du jugement des gens, que malheureusement le tatouage soit encore un délit de sale gueule, professionnellement parlant aussi, alors que maintenant, moi je trouve ça génialissime, on va rechercher des mannequins avec des tatouages pour faire telle publicité ou autre. Si t'es pas tatoué, tu trouveras pas de boulot. Mais on a encore les deux. Et c'est terrible à l'époque.
Et des gens qui se font faire des remarques.
C'est ça, les jugements. Je pense qu'on est propriétaire de notre peau. Le regard des autres, pour moi, je ne vais pas parler pour tout le monde, je passe outre. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Que ça te plaise ou pas, c'est pas grave, c'est mon corps. Et la femme a peut-être, avec l'histoire de la femme, comme on la connaît, le droit de vote, le droit à la libération sexuelle, le droit à la pilule, le droit à l'avortement. On va pas rentrer dans le féminisme, mais...
Si, au contraire, on est là
pour
ça.
On a quand même le droit de faire ce que l'on veut de notre corps. Et je vais pousser plus loin dans le tatouage, parce que je pratique aussi ce qu'on appelle le maquillage permanent. C'est donc sur le visage, suite à une chimiothérapie, une maladie thyroïde, autre, accident, on recouvre des cicatrices, on recrée des sourcils suite à une chimiothérapie, cancer du sein, on recrée des mamelons. Notre corps nous appartient, on a quand même le droit d'en faire ce qu'on veut. Si la maladie est passée par là et nous a pris un sein, on a quand même le droit à une reconstruction mammaire si on le veut ou pas. On a quand même le droit de se créer des motifs floraux sur la poitrine ou autre, ou de se recréer un mamelon. Par le biais du tatouage, toujours. C'est notre corps. Ça nous appartient. On a le choix, on a le pouvoir de décision. De toute façon, on a le pouvoir.
Martine, Elisa, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ?
Ah, tout à fait.
Ah oui, mais moi, c'est prêché une convaincue. Hein, je suis totalement d'accord.
D'accord, avec ça. C'est sur cette belle profession de foi féministe que nous allons conclure cette émission, malheureusement, parce que le temps qui nous est imparti est beaucoup trop court. Mais on pourra recommencer.
Avec plaisir.
Et je voudrais vous remercier toutes les trois de votre témoignage à la fois éloquent et savant sur le tatouage. Merci beaucoup, mesdames.
Merci Jean-François.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.